France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon. Utiliser l'épice seule en dehors du poivre, pour moi, est une aberration. Que ce soit un colombo, un garam masala, un hazelnut, un za'atar, un mélange cajun, c'est toujours un mélange. Une composition ancestrale, culturelle, qui dépend d'un pays, d'une région, d'une famille, mais c'est toujours un mélange.
Là, le chef, c'est le moment, c'est l'instant, préparez les épices.
Ce que j'aime, c'est ces petits mélanges d'épices très subtils, bien sûr les currys, un curry vert, un curry de Madras. Je veux offrir aux légumes un peu de subtilité, de la finesse, une petite rehausse de saveur, de couleur et de parfum.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster poivre, cannelle, curcuma, clou de girofle. On situe chacune de ces épices, on connaît leur signature aromatique quand elles sont utilisées pour elles seules, individuellement, mais que se passe-t-il quand elles jouent collectif, quand elles prêtent leur voix à une chorale qui comporte parfois jusqu'à 50 épices? C'est l'une des questions qu'on va se poser dans notre émission du jour. Ras El Hanout du Maghreb, 5 épices de Chine, garam masala d'Inde. On vous raconte et on cuisine quelques-uns des grands mélanges d'épices qui parfument les répertoires culinaires du monde entier avec nos deux invités. Mathilde Rollinger, bonjour.
Bonjour.
Dans la célèbre famille Rollinger, il y a votre père, Olivier, évidemment, qu'on entendait dans l'accroche de cette émission, ancien chef, 3 étoiles, à Cancale, qui a bâti avec votre mère Jane un incroyable écosystème gastronomique et culturel en Ille-et-Vilaine, autour de Cancale, en Bretagne. Il y a votre frère Hugo, évidemment, au fourneau du restaurant gastronomique, et il y a vous. Depuis quelques années, à la tête des épices Rollinger, vous avez transformé, chère Mathilde, le studio 611 de la Maison de la Radio en véritable comptoir d'épices. Hein. On est dans la boutique d'un apothicaire, c'est absolument incroyable, il y a des fioles partout. On va se régaler et on va parfumer cette émission. Merci d'être là.
Merci.
Vous nous venez de Bretagne.
Exactement.
Évidemment, vous avez fait le voyage. Adrien Ferrand, bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes le chef de...
Hills est copropriétaire de Brigade du Tigre.
Ah carrément, vous faites tout le boulot pour moi, c'est bien. Alors Hills d'abord, c'est un bistrot gastronomique.
Exact.
Qui est très inspiré.
Ouais, très très inspiré.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire à ce micro, c'est un de mes bistrots préférés à Paris. Vous nous en rappelez l'adresse?
Oui, 27 rue d'Hauteville, dans le 10e arrondissement de Paris.
Et comme vous le disiez, vous avez aussi Brigade du Tigre. On est sur un restaurant fusion avec des influences asiatiques.
Bistrot asiatique, oui exactement. Ouais.
Et l'adresse?
38 rue du Faubourg Poissonnière, c'est la parallèle de chez Hills.
Voilà, deux belles adresses à fréquenter assidûment dans le 10e arrondissement de Paris. Alors on vous a confié, cher Adrien, une mission un peu délicate. Jouer avec tous les mélanges d'épices de la maison Rollinger et nous proposer quelques-uns d'entre eux dans des usages intéressants, parfois inattendus. Et c'est vous qui avez un peu choisi les trois mélanges dont on va vraiment parler. Et puis il va y avoir évidemment d'autres mélanges surprises qui vont circuler autour de ce plateau. On peut parler de trois belles recettes dont une est en train de se faire sur la plaque de cuisson de l'émission. Il y a également Alessandra Pierini et Jérôme Gagnès pour nous accompagner tout au long de ce voyage épicé. Ciao à tous les deux.
Bonjour
à tous.
Alessandra.
Aujourd'hui, je fouille dans les traditions italiennes pour retrouver la trace des épices en cuisine. Et il y en a bien plus qu'on ne l'imagine.
Et c'est vrai, parce que, a priori, cucina italiana, ça rime pas forcément avec épices. Et vous allez nous affirmer le contraire, justement. Jérôme Gagnès.
Aujourd'hui, on se plonge avec délices dans le Périgord pourpre.
Et oui, magnifique Périgord pourpre avec deux très belles cuvées à déguster. Et vous, comment ça se passe à la maison avec les mélanges d'épices emblématiques? Réagissez dans notre émission en direct sur franceinter.fr ou sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com, on va déguster sur les ondes, mais aussi en podcast et sur le web avec nos infos, nos recettes, nos coups de cœur. Tout ça, c'est à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant d'évoquer nos emblématiques mélanges d'épices dans un tour du monde très aromatique, j'ai vraiment semé le trouble sur le plateau dont on va déguster. Là, il y a une espèce de panique totale, parce qu'effectivement, vous connaissez l'esprit de l'émission, on aime bien jouer.
Ah oui.
Et on aime bien vous faire deviner des petites choses à l'aveugle. Et là, vous êtes en présence d'une création pâtissière, surprise, qui effectivement sème le trou parce qu'elle porte un arôme méconnu ou pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Petit tour de table en commençant avec Alessandra Pierini. Déjà, de quelle création s'agit-il ?
Bon, déjà, c'est un chou.
Bravo.
Un chou craquant avec un... Par-dessus, il y a des fruits secs.
Oui.
Dont des amandes et des noix de cajou.
Caramélisées.
Et quand on découpe, en fait, ce chou, à l'intérieur, il y a un cœur coulant de crème blanche. Peut-être un peu vanillé, on peut distinguer des petits,
alors,
toutes petites graines noires.
Vanille, ok.
Vanille, ok. Par-dessus, il y a aussi un mélange un peu toasté, caramélisé de fruits secs.
Absolument. Et il y a une autre tonalité, on pourrait peut-être la qualifier
du,
de...
Du fruité, un peu citronné, j'aurais dit peut-être de l'épine vinette.
La réponse est non, mais c'est une piste intéressante. En tout cas, il y a une trame aromatique, pourrait-on la qualifier d'épicée, qui effectivement est assez surprenante. Alors, pour vous aider, j'ai râpé cet ingrédient mystère, évidemment, dans une assiette en carton que vous pouvez aussi sentir. Adrien Ferrand, vous avez une petite idée ou pas ?
Mais j'en avais pas, mais vu que vous venez de dire râpé, je suis en train de réfléchir à d'autres choses.
Mm-hmm.
Moi, je trouve que... En effet, dans le chou, c'est vraiment très délicat, le goût. Mais dans l'assiette, là où vous nous avez râpé cette chose, ça me fait penser à quelque chose de très racinaire,
ouais.
Style ginseng, style peau de céleri séché, céleri boule. Mais j'avoue que je donne ma langue au chat.
Mais je peux vous dire que c'est pas facile. Vous aimez ou pas ce chou ?
Oui, c'est très très bon. Ouais.
Ouais, il est très bon. Très bon. Le chou,
il est incroyable, non ?
Incroyable.
Oui, très très bon.
Pas trop sucré ? Avec, il est vraiment...
Il y a un petit craquelin dessus.
Il y a Jérôme Gagnès qui me regarde, pas trop sucré en faisant la tête, parce que lui, il aime évidemment les desserts sucrés, on le connaît par cœur. Mathilde Rollinger.
Alors, c'est vrai que cette crème de chou, elle est très, très douce, on sent la vanille, et en même temps, il y a cette pointe un peu florale, un peu pleine de fraîcheur. Pour rejoindre ce que disait Adrien, il y a un côté un peu, on pense à quelque chose de effectivement racinaire, et comme ça, avec ce... Mais je me plante peut-être totalement, franchement, avec le stress du plateau. J'ai peut-être pas tous mes moyens, mais je dirais peut-être une pointe de galanga. Mais il y a un côté en même temps résineux.
Vous dites, en tout cas, il y a beaucoup d'adjectifs intéressants. C'est pas du galanga, c'est une épice mystère. Mais c'est pas du galanga. Qu'est-ce que vous percevez, Jérôme Gagnès ?
Vous nous avez pas gâté, patron, hein, quand même. Hein.
Non, là, non, elle est dure, cette énigme, là, j'avoue.
Dans le chou, c'est très difficile de la définir. Évidemment, avec ce que vous avez râpé, au premier abord, j'avais vraiment un côté noix de muscade.
Ouais.
Ah, alors là, vous lâchez un mot intéressant.
Ouais.
C'est pas de la noix de muscade, mais l'arôme de la noix de muscade est clairement présent. Noix de muscade.
Mais après, en mettant le nez dessus, c'est vrai que ça fait citronné, ça fait... Il y a d'autres dimensions, je crois que je ne connais pas cette épice.
Eh bien, vous n'êtes pas le seul, je peux vous dire. Vous n'êtes vraiment pas le seul à ne pas connaître cette épice.
Je l'ai déjà senti, cette épice.
Mais elle est très rare.
Elle
est quasiment pas utilisée.
Okay.
Parce que ce chou...
Elle est magnifique, cette épice. Hein.
Cette création, alors déjà, je vais vous signaler que cette création est signée Jessica Prealpato. Vous connaissez cette pâtissière.
Oui.
Énormément de talent. C'est une de nos talentueuses pâtissières sur la scène sucrée à Paris et en France. Elle a mis au point le goûter de l'hôtel Saint-Régis à Paris. Elle s'apprête à ouvrir un salon thé, Paris 1er, dans le centre de Paris, dans quelques temps. Et cette création, en effet, se joue à un petit truc en plus, voire un gros truc en plus. C'est cet ingrédient mystère qui parfume cet entremets. Vous voulez la solution des jeux ou pas ?
Bah oui, bien sûr, évidemment.
On y va.
Alors, cette création sucrée, c'est un chou. À l'intérieur, il y a une crème à la vanille. Et il y a une pâte. Et dans la pâte, il y a de l'amande, il y a du poivre de Madagascar. Et il y a un petit truc en plus.
Ah, c'est donc cet ingrédient mystère.
Exactement. Je vais te montrer ce que c'est, je vais en râper un petit peu, et puis tu vas me dire ce que t'en penses.
Oui, ça ressemble à une espèce de noix oblongue de couleur sombre.
Exactement.
Ça rappelle quelques épices.
Oui, moi ça me fait beaucoup penser à cardamome noir, peut-être un cardamome verte aussi, parce que ça reste quand même assez frais. Il y en a beaucoup aussi qui parlent aussi de clou de girofle et de muscade.
Mais d'où ça vient, cette drôle de graine, et comment ça s'appelle ?
Alors ça s'appelle du puchuri, ça vient du Brésil, et moi j'ai une dame qui s'appelle Thaïs, donc qui est Madame Brésil, qui me vend ces produits-là. C'est une belle découverte.
Un très très beau dessert.
que tu as créé pour quelle occasion ?
Alors, j'ai créé ce dessert pour une occasion assez spéciale. Donc, je suis ambassadrice et marraine, du coup, depuis 2 ans de l'Institut Curie et surtout de la campagne Une Jonquille contre le cancer. Et j'ai créé ce dessert-là pour Claudia Tagbo, donc, qui est une humoriste française, très, très sympa, une femme incroyable et vraiment avec le cœur sur la main. Et c'est pour elle que j'ai créé ce dessert. Donc, elle m'a envoyé des idées de ce qu'elle aimait, donc la vanille, les amandes. Donc, il fallait un petit peu composer avec tout ça. Et j'avais envie de mettre un petit coup de peps et de faire découvrir aux gens, du coup, qui allaient acheter le chou, bah, une épice qui n'est pas forcément connue aujourd'hui.
Il a un petit nom, ce chou ?
Allez, maintenant que vous savez le nom, chou pout chouri amande.
Chou pout chouri amande, avec cette fameuse graine qu'on appelle ?
Du coup, la graine pout chouri. Et j'ai mon petit pâtissier en bas qui m'a dit, on va ouvrir une boutique, on va appeler ça pout chouchou. J'ai dit, allez, c'est parti.
Merci, Jessica.
Merci à toi.
Pout chouri, P-U-X-U-R-I. Cette graine amazonienne qui, effectivement, a des parfums de clou de girofle, de noix de muscade, comme vous le disiez, Jérôme Gagnès. On y trouve également la fraîcheur de la cardamome, verte et noire. Certains y trouvent également des accents de badiane, d'anis étoilé. Voilà, on est sur une graine qui, certainement, va avoir du succès dans les prochains mois et les prochaines années. Elle commence à s'exporter.
Et c'est
Madame Brésil qui s'en occupe en France. Voilà, le pout chouri. Et donc, comme je vous le disais, ce chou de Jessica Préalpato va être vendu à l'occasion de la 21e campagne nationale une jonquille contre le cancer qui aura lieu du 11 au 23 mars 2025. Et pour déguster ce magnifique chou, rendez-vous le samedi 22 mars 2025. Donc, évidemment, dans quelques jours, dans la boutique Food Pâtisserie 45 rue Montorgueil Paris 2e. Les choux y seront en vente au prix de 5€ le chou et 12€ le trio et 100% des bénéfices seront reversés à l'Institut Curie pour la lutte contre le cancer. Voilà, allez, on va continuer à parler épices dans un instant. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec à la technique Guillaume Ficheux. Fabrice Rivaud pour la préparation et la programmation de l'émission. On se retrouve juste après Cool Hand de la chanteuse germano-turque Derya Wildirim et son groupe Chimchek. C'est un groupe très cosmopolite. La cuisine, c'est comme la musique, ça se mélange. Bon appétit et bon voyage sur France Inter.
Açmadı gene gözleri.
gingembre, poivre, safran, cannelle ou bien encore cumin, au Maroc depuis le Moyen-Âge, les plats intègrent un nombre impressionnant d'épices. Prisées pour leur goût et leurs vertus curatives, elles constituent alors un enjeu économique majeur. Aujourd'hui, le ras el hanout, un mélange très prisé des cuisinières, concentre à lui seul, et selon l'humeur du marchand, jusqu'à 50 épices différentes.
On le surnomme parfois curry maghrébin, et s'il est très associé au Maroc, on le retrouve en Algérie, en Tunisie et même en Libye. C'est à coup sûr l'un des mélanges d'épices les plus connus au monde. Mais c'est aussi, dites-vous, Mathilde Rollinger, le mélange le plus complexe et le plus sophistiqué au monde.
C'est vrai, je dirais que c'est un mélange savant parce qu'il faut marier, assembler différentes épices et c'est vraiment le savoir-faire d'un épicier. C'est-à-dire que le ras el hanout, ça veut dire la ras, c'est la tête, et hanout, c'est la boutique. Donc c'est vraiment la crème de la crème de la boutique de l'épicier en fait.
C'est un peu la tête de gondole.
La tête de gondole.
Ou le haut du panier, on pourrait dire.
Ouais, et on mesure le talent de l'épicier à la qualité de son ras el hanout dans la tradition en Afrique du Nord.
C'est une harmonie qui peut comporter entre 20 et 50 épices et condiments, c'est colossal.
C'est colossal, hein. Et c'est aussi beaucoup d'ingrédients précieux. C'est vraiment l'héritage de la tradition de cuisine médiévale arabe. Mm-hmm. Donc il y a tout ce passé, c'est l'histoire de la route des épices, parce que toutes ces épices qui sont dans le ras el hanout, elles ne sont pas cultivées dans cet endroit.
Bien sûr.
Donc en fait, c'est l'idée de... Et à l'époque, les épices, on pensait qu'elles poussaient au paradis. Donc c'était comme si c'était des ingrédients qui venaient de la lune. Donc rassembler toutes ces plus belles épices, qui sont des plantes, dans ce mélange pour faire un parfum extraordinaire. D'ailleurs, dans la langue littéraire arabe, le mot épice et parfum est similaire. Et c'est ça qu'il faut dire aussi par rapport aux épices. Les épices, c'est pas que épicé, piquant, mais c'est avant tout des parfums.
Alors c'est vrai qu'il y a souvent cette ambiguïté, hein. On le signalait, on en discutait avec l'ami Jérôme Guéniez juste avant cette émission, il y a comme une espèce de contresens quand on parle de plat épicé ou spicy en anglais, souvent c'est assimilé au piquant du piment. Ça voudrait dire en fait pimenté. Or, il peut y avoir des épices douces qui ne piquent pas du tout.
Ouais, notamment on pense à la vanille, la muscade, le massy. Et ce qu'on va retrouver dans le ras el hanout qui ne va pas piquer, ça va être par exemple la cannelle, qui va être justement...
Même sur la suavité. Hein.
Suavité, un petit peu de sucré.
La cardamome, ça pique pas.
Ça pique pas non plus.
Il y a de la fraîcheur.
Énorme fraîcheur d'eucalyptus. Et il y a aussi des ingrédients, des fleurs, beaucoup de fleurs.
Dans le
ras el hanout. C'est pour ça qu'en termes... je vais vous faire sentir d'ailleurs.
Évidemment.
Il faut que vous le... Que j'ai vos impressions, qu'on partage tout ça. Il y a pour moi une dimension très florale, avec notamment des fleurs de cartame, la rose, de la lavande. Dans la tradition, il y avait des épices que maintenant on n'utilise plus, mais jusqu'à un ingrédient assez incroyable, ça s'appelle la cantharide, qui est un insecte qui faisait partie de la recette très traditionnelle, mais parce que pour ses pouvoirs aphrodisiaques, et puis on l'a supprimé. Il y avait aussi une plante toxique, belladone, mais vraiment c'est des ingrédients rares et assez extraordinaires qui avaient cette vertu de réchauffer et d'apporter, enfin moi je trouve qu'il y a à la fois côté très robuste, envoûtant, mais une dimension très florale, comme un grand vent de fleurs.
Mais alors Mathilde Rollinger, ce qu'il y a de complexe avec ce mélange d'épices, c'est qu'effectivement, sa recette varie d'un épicier à l'autre, d'une famille marocaine ou maghrébine à l'autre, puisqu'elle peut comporter entre 20 et 50 épices, et pour autant, il y a une signature aromatique commune à tous les ras el hanout. Qu'est-ce qui fait peut-être les dénominateurs communs, au-delà de leurs différences, les dénominateurs communs des ras el hanout?
C'est cette sophistication parce qu'on ne sait pas on ne peut pas dire ce qu'il y a dedans. On a énuméré quelques ingrédients et j'ai vraiment une infime partie.
Vous jouez le mystère.
En fait, aucune. Bah vous m'avez bien attrapé tout à l'heure. Aucune. Mais c'est bien aussi. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. En fait, aucune ne va dominer. Et en fait, on va avoir une synergie qui va constituer un nouveau parfum. C'est comme si. Voilà, on ne peut pas définir ce qu'il y a dedans. Et après, en fonction du plat, eh bien, il y a une épice qui va se révéler qui va prendre le dessus par rapport aux autres, selon ce qu'on va mettre avec un légume ou une viande.
Ouais.
Elles vont s'exprimer différemment. Et c'est ça qui est incroyable, en fait.
On pourrait dire que dans tous les races à la noutre, raisonnablement, on est à peu près sûr de tomber sur du poivre noir, sur de la cannelle, sur de la muscade, sur du clou de girofle, sur du cumin.
Cubeb.
Cubeb. Poivre de Cubeb, absolument. Alors, cette recette absolument remarquable de la maison Rollinger a été mise au point par votre père Olivier, avec une grande dame de la cuisine marocaine en France.
Voilà, Fatemal,
qui
est cuisinière et anthropologue. Ça fait un peu plus de... Je pense que ça fait plus de 15 ans.
Oui.
Je n'ai pas la date exacte.
Et il y a combien d'épices en tout ?
Alors, dans le nôtre, il y a 27 épices. Et en fait, mon père lui a remis... elle lui a demandé une liste d'ingrédients. Il lui a donné les épices. Et pendant une semaine, elle a composé le ras el hanout, qui est inspiré de... Elle, pour elle, le meilleur ras el hanout, c'est un épicier à Fès dans son enfance. Et elle a reconstitué ce ras el hanout quelque part de son enfance. Mais m'expliquer, ça a été un vrai combat pendant une semaine avec toutes ces épices, de les faire dialoguer ensemble. Et donc, on a la chance d'avoir cette très belle composition de Fatemal.
Jérôme Gagnez ?
Honnêtement, je suis totalement bouleversé par ce mélange d'épices. Dans le vin, on cherche frénétiquement la complexité quand on met le nez dans un verre. Je suis en train de toucher du doigt probablement la complexité ultime.
Et oui, parce que on a pour le coup presque une, du coup, ça crée, je trouve, un arôme nouveau, en fait.
C'est envoûtant. Extraordinaire.
C'est envoûtant.
Mais en même temps, il y a un très bel équilibre. Mm-hmm. Chaleur, douceur, piquant.
Le floral aussi.
Et le floral, oui, on a envie de le sentir.
L'archétype de la complexité.
C'est
incroyable.
C'est savant. Je pense qu'il faut le dire.
Alors, son usage le plus connu, là, c'est la noutre. C'est l'assaisonnement des tagines au Maroc, par exemple. Une cuillère à café suffit à faire rentrer un plat à base d'agneau ou de poulet dans une autre dimension. Il y a le couscous, il y a la chorba. Ça va bien aussi avec les desserts, on va le voir. Et puis, on a proposé à notre ami Adrien Ferrand un petit exercice qui était celui... Vous lui avez... Alors, voilà comment ça s'est passé. On a choisi Adrien parce qu'il a des chakras culinaires particulièrement ouverts et puis il a beaucoup de talent. Moi, j'ai eu à maintes reprises l'occasion de m'en apercevoir. Et vous lui avez envoyé une sélection de mélange d'épices. Et c'est un peu, Adrien, vous qui avez pioché dans la sélection que vous envoyez Mathilde Rollinger. Et ce ras el hanout, il vous a fait quel effet ?
Ce ras el hanout, il m'a beaucoup plu. Il faut savoir que mon plat préféré, c'est le tagine. Ça pouvait pas mieux tomber. J'adore les plats méridionaux et orientaux. Et pour cette recette, je suis parti finalement de la couleur. Mm-hmm. Parce que je pense que dans ce ras el hanout, Mathilde, tu me dis si je me trompe, il y a un petit peu de curcuma.
Oui, il y a du curcuma en liant, justement.
Mais c'est vrai que vous avez raison.
Cette couleur solaire.
Oui, on n'a pas parlé de la couleur, parce qu'évidemment, on est à la radio, mais il a une couleur très intrigante.
Il est magnifique, oui.
Ce ras el hanout, vous définiriez comment sa teinte ?
Or, complètement, un or un peu brun. Il est magnifique, mais on voit, et ça c'est la qualité du travail des Rollinger, que le grain il n'est pas moulu trop finement, et du coup on peut apercevoir les autres épices. Et ça c'est ce qui qualifie vraiment votre travail d'exceptionnel, je trouve.
Mais il y a plein de petites couleurs, on entrevoit la rose, on entrevoit un peu de verdeur aussi,
exact.
La cardamome, enfin, on sent qu'elles sont toutes là et qu'elles palpitent.
Et ça, c'est l'effet de quoi ? Comment ça se passe en termes de préparation ? D'abord, je crois savoir que vos épices sont torréfiées pour leur donner un petit peu de force.
C'est ça, en fait, chaque composition d'épices obéit à une recette. Et donc, c'est vrai qu'on parlait d'équilibre tout à l'heure, mais c'est vraiment que le c'est une question de dosage, en fait. Et de la présence de toutes les épices. Vous enlevez une épice dans le ras el hanout, déjà, il n'a plus la même saveur. Mmh. Et en fait, on se dit, mais pourquoi les compositions d'épices ? Pourquoi les mélanges d'épices ? À quoi ça sert, finalement ? Tout à l'heure, Alessandra a dit équilibre. Et c'est vraiment cette notion d'harmonie, d'équilibre qu'il faut obtenir avec ces bons dosages et une bonne sélection d'épices. Il faut évidemment une fraîcheur de l'épice elle-même. Et ensuite, il va y avoir la torréfaction, le choix de la mouture, jusqu'où on va
comment,
dans la mouture.
J'allais vous le demander, comment sont moulues les épices, puisque Adrien signalait effectivement qu'il y a une mouture assez douce et en même temps, on distingue effectivement des tonalités, des couleurs différentes.
On travaille avec un moulin à épices,
avec
différentes grilles, et on peut choisir la grille qu'on veut obtenir suivant le goût qu'on veut avoir.
Comment, Adrien Ferrand, vous avez décidé, alors vous avez un casque,
Oui,
on appelle
exactement.
Ça un Madonna, vous savez. C'est ce petit micro qui vous arrive pile poil devant les lèvres et vous êtes devant la plaque de cuisson dont on va déguster. Pour
exactement,
cuisiner,
je me déplace. Et ben moi, je suis parti du coup de la couleur, de la couleur du curcuma qui est un orange très intense. Mm-hmm. Et je me suis dit, même si j'ai très envie de cuisiner les petits pois et les asperges qui commencent à pointer leur bout de leur nez,
c'est vrai.
Je vais quand même garder un pied dans l'hiver. Et j'ai cuisiné des patates douces, du potimarron et des carottes. Donc pour faire un clin d'œil à cette couleur, on sait que la plupart du temps, tout ce qui est de la même couleur, ça s'associe.
Ah.
Donc là, on a mis un petit zeste d'orange, on a mis de l'ail écrasé, du beurre dans lequel on a fait infuser l'épice. Mm-hmm. On sait que la matière grasse et l'alcool, c'est ce qui capte le plus les goûts.
D'accord.
Dans la cuisine. Et ensuite, on a fait un petit bouillon également au Razelanout, mm-hmm. pour être certain que c'est bien le goût de Razelanout. Et puis, on a fait étuver ça, tout doucement, à la casserole, avec un petit couvercle. Et puis là, je suis en train de vous les dresser sur une
petite huile d'olive. Alors là, on est vraiment face à des légumes glacés avec un petit jus qu'on devine épicé. Il y a d'ailleurs les parfums qui nous arrivent aux narines. Vous y êtes pris comment? Au départ, c'est beurre. Dans le processus, les épices interviennent tout au début pour être un peu chauffées, c'est ça? Et captées par la matière grasse?
Alors, non. Les épices, je les ai déjà fait infuser dans le beurre.
D'accord.
Et dans le bouillon. Mais en effet, on aurait pu commencer à faire torréfier légèrement les épices à sec dans une casserole, mmh. ou alors à la maison, moi je trouve ça assez intelligent de les faire un peu torréfier au micro-ondes. On a trouvé avec mon ami Galien chez Brigade du Tigre que ça exhaustait énormément le goût des épices. Nous, on n'a pas la possibilité de travailler toute l'année avec les épices Rollinger. Du coup, c'était des épices un petit peu moins qualitatives, mais on se rend vraiment compte qu'en en faisant un petit peu de torréfaction, il y a beaucoup de goût.
Des épices au micro-ondes, qu'en pense...
Bah alors là, je...
qu'en pense Mathilde Rollinger ?
Moi, c'est le micro-ondes... Alors moi, je ne suis pas cuisinière, mais je cuisine à la maison. Et c'est vrai que le micro-ondes, moi, ce n'est pas du tout mon ami, j'en ai pas dans ma cuisine. Mais après, il faut essayer, encore une fois. Moi, je suis très ouverte et on apprend des choses tous les jours. Pour revenir à la composition des mélanges d'épices, je voudrais juste dire qu'on cuisine les épices... dans notre cuisine laboratoire à la maison du voyageur. Donc, c'est pas assembler des poudres ensemble, on travaille des épices entières, et je vous ai apporté justement plusieurs épices du Razelanout, et on voit les différentes formes, et donc c'est pour ça que j'aime bien cette idée de dire, voilà, on cuisine les épices avec, on suit une recette, on y met une attention, et pour justement obtenir cet équilibre et cette harmonie.
À vos fourchettes, Adrien vient de distribuer ces très belles assiettes, hein. Fait ça avec les moyens du bord, petite plaque de cuisson dont on va déguster, on est dans des assiettes en carton évidemment. J'attends vos impressions, Alessandra.
C'est délicieux parce que ces légumes sont à la base assez sucrés, carottes,
en effet, oui.
Potimarron. Et donc là, ils ont tous les parfums de ces légumes sont relevés, en fait, et prennent de la force, la vigueur avec les épices. Je vois qu'il y a une huile d'olive très verte,
ouais, qui est absolument délicieuse, oui.
qui contribue aussi à mélanger aussi tous ces parfums, et puis le croquant des amandes dessus, c'est excellent, et la menthe fraîche.
Oui.
Qu'Adrien vient de mettre, ça...
Ce qui est formidable aussi, c'est qu'il y a quand même des notes acides et fraîches, malgré la rondeur et la douceur des épices et des légumes. Jérôme Gagnez ?
Oui, moi je craignais un peu ces légumes qui sont toujours très sucrés. D'abord, c'est très adroitement salé, donc ça compense quand même aussi le sucre. Et il y a une forme de chaleur, en fait, aromatique dans ce plat. Ces épices, en fait, elles apportent une chaleur qui se marie admirablement avec ces légumes. Encore une fois, l'assaisonnement est parfait, donc on retrouve, en fait, la complexité du mélange d'épices, et c'est servi par des légumes qui sont légèrement croquants, et ce mélange vient enrober tout ça. C'est vraiment parfait.
Ouais, c'est très envoûtant, et il n'y a pas de surpuissance, justement. On n'est pas dans une démonstration de force, mais en même temps, ça vient apporter une belle sophistication.
Il ne faut pas avoir la main trop lourde, hein, justement, sur les épices. C'est ça qui est bien. dans ce plat. C'est que c'est dosé avec beaucoup de justesse et de
c'est ça, et
d'humilité, j'ai presque
envie de dire. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est... Des fois, on utilise des épices et en fait, il ne faut pas s'empêcher derrière d'utiliser en plus des herbes fraîches. Parce que la combinaison des deux fait encore un twist encore plus incroyable.
Vous allez avoir une actu au mois d'avril avec notre amie Bina Paradin, dont on parlera un peu plus tard dans cette émission, car vous avez composé ensemble, alors là, on partira du côté de l'Inde, un garam masala. Mais... vous avez conçu à 80 un livre, Boire les épices, et il est question de Racel Hanout, justement, dans ce livre dont vous viendrez nous reparler. Oh. Il est question de Racel Hanout dans un usage assez étonnant.
Eh bien, j'ai mélangé, fait infuser un jus d'abricot.
Et ben voilà, encore la couleur orange.
Voilà, et avec du Racel Hanout plusieurs heures, entre 4 et 12 heures. Et derrière, ça donne une boisson incroyable qu'on peut derrière délayer avec un peu d'eau pétillante. Ça marche très bien aussi avec le jus d'ananas. Et en fait, le Racel Hanout avec les glaces pistache, abricot, c'est incroyable aussi. Pas hésiter à mettre le Racel Hanout, on l'a vu là, dans les légumes, parce que souvent, c'est Racel Hanout, on le retrouve dans un plat du 12e siècle au Maroc, le mouroudzia, un plat d'agneau.
Et oui, mais finalement, agneau très confit.
Et c'est un plat de faste, en fait, avec des viandes, etc. Mais aujourd'hui, on peut aussi se régaler avec des légumes, des fruits. Ça fonctionne très bien aussi avec les abricots rôtis ou des figues rôties également au miel.
Bravo, Adrien Ferrand.
C'est super.
Quel plat, là ?
On termine avec un petit jus de citron.
Et oui, plat. C'est ça.
Et ça, pour toute la cuisine, j'ai envie de dire.
Mais bien sûr, parce que vous avez été aussi... Vous avez été aussi à Bonne École et vous avez travaillé avec notre ami William Ledeuil, chef étoilé.
Exact, oui.
De The Kitchen Gallery, qui travaille beaucoup les agrumes. Et vous êtes très sensible à la vivacité.
Ouais, c'est important.
Et, à la fraîcheur, évidemment.
Fantastique spécialiste de l'agrume, William Ledeuil.
Ah ouais,
la cuisine est dingue.
Ouais, Adrien Ferrand est un très bon héritier de William Ledeuil. Et puis je précise que Boire les épices chez Ulmer à paraître le 24 avril, coécrit avec Bina Paradin, et photographie de cette exceptionnelle photographe qu'on aime beaucoup, Anne-Claire Hérault, ce sera aux éditions Ulmer.
C'est ça.
On n'associe pas immédiatement la cucina italiana aux épices, et pourtant.
France Inter.
Buon appetito.
On va déguster.
Comme on vient de le dire, quand on parle d'épices, ce n'est pas spontanément la cuisine italienne qui nous vient à l'esprit. Et pourtant, elle a connu, elle aussi, son âge d'or. Les Romains en importaient déjà d'Orient via la route de la soie et les voies maritimes. Puis, grâce à Venise, l'Italie devient, du Moyen-Âge à la Renaissance, un carrefour du commerce épicé. Mais après la chute du monopole vénitien, la découverte de nouvelles routes commerciales par les Portugais et les Espagnols, l'Italie se recentre sur ses produits locaux et ses herbes aromatiques comme basilic, romarin, sauge, origan, ce sont elles qui prennent le relais. Mais alors, qu'est-ce qui reste de cet héritage ? Heureusement, elles n'ont pas disparu du paysage culinaire italien, mais se sont un petit peu transformées. À partir du XVIIe siècle, elles ont délaissé leur rôle gustatif pour devenir surtout médicinales et conservatrices, tout en restant quand même des marqueurs aromatiques. Elles ont intégré la composition de nombreux alcools comme vermouth et les amari.
Et oui, les fameux amers aux propriétés digestives bien connues, hein, après un repas copieux.
Tout à fait, on les boit volontiers.
Les amari italiani, bien sûr.
Mais c'est surtout en charcuterie où elles parfument, prolongent la conservation grâce à leurs propriétés et signent l'identité des salaisons. Là, par exemple, la première spécialité qui me vient à l'esprit, c'est le lardo di colonnata.
Et oui, bien sûr, le lard toscan. Hein.
C'est ça, le lard blanc, avec sa saveur incomparable, avec un mélange d'épices qui est jalousement tenu secret par chaque producteur, même si on devine quand même la présence de poivre, muscade, coriandre qui l'enrobe tout autour. Et en plus, la finocchiona.
Et oui.
Ce saucisson toscan qui ne fait aucun mystère sur son ingrédient phare, qui est la graine de fenouil.
Finocchio.
On dit finocchio, bien sûr, en italien, qui lui donne son goût anisé inimitable. Et la porchetta romaine, relevée par poivre, noix de muscade et encore de la graine de fenouil. Mais que serait le risotto à la milanaise et les arancini siciliens qu'on connaît bien sans le safran ? Ou les gâteaux de Sienne comme le panforte et le pan pepato, sans poivre, cannelle, noix de muscade, coriandre ou bien clou de girofle ? Et le pepposo toscan, François-Régis, que nous avons goûté ensemble.
J'adore.
Il y a quelques années maintenant.
Qui vient de pepe en italien, ça c'est une spécialité de Toscane, une espèce de bœuf confit avec... la recette demande peut-être 30 grains de poivre ou quelque chose comme
absolument,
ça. Absolument. Mais ça apporte une chaleur incroyable. Et un petit peu de vin rouge aussi, hein, bien sûr.
Beaucoup de vin rouge qui donne donc cette couleur bien foncée au plat.
Le pepozo, ce ragoût de bœuf, effectivement bien foncé et très poivré.
Mais s'il y a un condiment qui incarne parfaitement la splendeur vénitienne des épices et qui trône fièrement sur les tables italiennes depuis le 15e siècle, c'est bien la mostarda.
La mostarda.
Mais attention, malgré son nom, ce n'est pas la moutarde que vous connaissez bien. C'est un faux ami. Même s'ils partagent tous les deux la même étymologie. Ils viennent du latin mustum ardens, qui signifie mou ardent. Mais leur seul vrai point commun, c'est le piquant qui est apporté par les graines ou l'huile essentielle de moutarde. Pour le reste, c'est tout un autre univers. La mostarda est un mélange de fruits confits dans un sirop de sucre, relevé d'épices et de graines de moutarde.
J'adore ça.
Les fruits peuvent être entiers, en morceaux ou en compote, pour accompagner aussi bien le salé que le sucré. Donc on mange la mostarda avec des charcuteries, des fromages, du pot-au-feu, des rôtis. On en met même dans la farce de ravioli. Et encore dans des desserts comme le panettone à Noël et même des glaces.
La mostarda di Cremona.
Absolument, la Cremona et on en fait un petit peu dans tout le nord de l'Italie. Oui, oui.
Et là, vous nous en avez préparé une maison quand même.
Préparé une maison. Donc, vous allez goûter. C'est un mélange donc de notes acidulées, fruitées, épicées. Pour faire cette mostarda, j'ai utilisé des fruits de saison qu'on trouve très facilement, donc poire et pomme. Mais on peut faire de la mostarda pratiquement avec tous les fruits. Le principe, c'est celui de faire confire déjà les fruits. On les découpe crus, et soit en fines tranches, soit en petits morceaux. On les fait d'abord macérer dans du sucre, au moins 24 heures. Les fruits vont relâcher en jus. 24 heures après, on prend ce jus, on le fait chauffer jusqu'à ébullition. On le maintient 5 minutes à ébullition. Moi, j'ai ajouté des épices, cannelle, clou de girofle, noix de muscade.
Bonne idée.
Bien sûr, ce sont des épices.
Et attendez, il y a quand même le piquant moutardé aussi. Hein.
Le piquant moutardé, et pour savoir ce piquant moutardé, donc, c'est à la fin donc, de la préparation, donc après 3 jours de confisage donc, de fruits, qu'on ajoute la graine de moutarde, qu'on fait soit chauffer dans une poêle à sec pour relever un peu le parfum. Moi, je l'ai aussi pilé. Une partie avec un
ça
pilon dans un
leur piquant.
Le piquant. Ensuite, on la mélange bien à ses fruits et on laisse reposer une bonne dizaine de jours pour ensuite l'utiliser.
C'est un super
condiment au dessert
et qui porte le côté agrodolce, l'agrodo, hein.
C'est l'agrodo,
le sucre,
c'est
le piquant, l'acidité.
Tout à fait. C'est un peu la cuisine, un peu de la Renaissance déjà. Et ce mélange aussi de fruits et d'arômes, on l'a dans la cuisine italienne depuis très longtemps.
Et oui, absolument. Et là, en plus, vous nous l'avez servi avec. J'ai l'impression que c'est un fromage français quand même.
Servi avec du Roquefort, bien sûr.
Jumelage.
Je trouve qu'avec le Roquefort.
Jumelage franco-italien.
C'est un mélange qui réussit bien.
Alors,
moi,
mostarda,
je l'aime beaucoup.
C'est délicieux. Moi, je suis fan de mostarda à la base et celle-là est très bonne, faite maison, oui.
Elle est assez incroyable avec ces carrés de poire un peu charnus. C'est bon, hein ?
C'est très très bon. C'est très bien confit. Il y a encore un peu le croquant de ces fines tranches de poire. Et c'est un accord absolument formidable avec le Roquefort.
Mathilde ?
Je trouve que c'est une vraie bombe de saveur, en fait. Et on se dit, on devrait tous en avoir dans notre cuisine. Indispensable condiment pour même, on peut se dire, avec un bon curry à côté, pourquoi pas augmenter les mélanges culturels.
Bonne idée.
Ouais. Ben Mathilde Rollinger va lancer avec Épices Rollinger une collection de mostarda avec Alessandra Pierini. Ça y est, c'est fait. Je plaisante. On va parler dans un instant de bien d'autres mélanges d'épices. On vous raconte notamment le 5 épices de Chine, le garam masala d'Inde. On fait un petit voyage liquide aussi dans nos verres avec Jérôme Gagnez.
Dormir en cuillère avec toi, me réveiller, j'ai un peu froid. Je te fais un café long, la radio, les chansons, tiens. Le PSG gagne au Barça, le climat c'est n'importe quoi. Dire que je suis comme tous ces cons qui peuvent pas changer de direction. Enfant arrive en criant, mais il crie en se marrant. Je suis pas sûr qu'il soit en montrant ton derrière. Téléphoner à Eddie, Zouzou court après la perdrix. Les nuages se dégagent, laisse le soleil sur le bocage. Dormir en cuillère avec toi, se promener dans les sous-bois, lancer loin une pomme de pin, comme ça, pour rien. On fait toujours la même chose, mais c'est toujours différent. Il n'y a jamais de pause, le temps avance tout le temps. On fait toujours la même chose, mais c'est toujours différent. Il n'y a pas de bouton pause, ou alors c'est stop éject définitivement.
Cuillère, le nouveau titre de Catherine.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Quand les épices s'associent pour faire des mélanges qui parfument et marquent rythme, la cuisine, nos invités du jour, Mathilde Rollinger, d'Épices Rollinger à Cancale, peut-être bien la maison la plus connue en termes d'épices, pour leur réputation, leur qualité, leur fraîcheur, et Adrien Ferrand, jeune chef à la tête de Hills, de Brigade du Tigre. On me dit dans l'oreillette qu'il y aura bientôt une troisième adresse, mais qu'on n'a pas le droit d'en parler. Ok, bah vous reviendrez en parler. Et puis pas mal de réactions de nos auditeurs sur notre mail, notamment Rebecca de Lyon qui nous fait remarquer que le succès de la cuisine orientale et levantine a mis en lumière, il est vrai, depuis quelques années, des mélanges qu'on connaissait pas encore, qu'on connaissait pas vraiment il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Alors évidemment, je vous laisse les citer, mais c'est vrai que ce sont des mélanges qui ont vraiment, vraiment la cote en ce moment.
C'est vrai, on parle beaucoup de douka, de zaatar. Donc le douka qui est d'origine égyptienne et qui finalement a fait un buzz en Australie et après dans différents shows télévisés. C'était un plat, enfin un douka, c'était vraiment à base de, donc c'est à base de noisettes et d'herbes, parfois
donc,
oléagineux, très nourrissant, pour avec de l'huile d'olive et une galette donner quelque chose de consistant et de très nourrissant. Donc on a vu, on peut avoir des mélanges très pour des plats fast et d'autres compositions d'épices qui vont au contraire, enfin qui vont nourrir en fait des plats modestes.
Le douka, il est plutôt d'origine égyptienne, c'est ça ?
Égyptienne, mais au final aujourd'hui on le trouve partout, dans tous les bistrots parisiens, c'est incroyable, mais faut dire que c'est délicieux.
Et la maison Rollinger s'en est emparée, évidemment.
Alors on s'en est emparée, mais j'ai un peu détourné dans un douka décomplexé botanique d'été, ça s'appelle.
Très bien, botanique
avec
d'été.
Avec du chanvre.
Et le zaatar, on parle évidemment de ce mélange avec vous l'utilisez le zaatar, Adrien ?
Ouais, on l'utilise beaucoup avec mélange de thym. De sésame et un petit peu de cumin.
Et la plante zaatar en tant que telle aussi, qui est incroyable.
C'est un thym oriental. Hein.
C'est un thym oriental, avec un côté à la fois origan, menthe, un bouquet aromatique en soi.
Ouais, c'est sublime. Très intéressant. Zaatar du Liban ou du Levant, le douka d'origine égyptienne. Alessandra, une réaction ?
Il y a une réaction, oui, de Isa Boivin qui demande combien de temps se gardent les épices.
Ah, les épices. Alors, on parle vraiment, là pour le coup, dans cette émission de mélange d'épices une fois moulues. C'est vrai qu'on les conserve en général dans des petites fioles en verre, voilà, par exemple, donc, ou des boîtes en métal.
Voilà, il faut que ce soit dans un emballage bien fermé, hermétique, à l'abri de la lumière. Les deux ennemis, c'est l'eau et la lumière. Et on peut les conserver. Nous, on met une date de 18 mois. Si vous les gardez, c'est indestructible. Vous en mettez juste un peu plus. Voilà. Mais ça va être optimum pendant 18 mois. Après mouture, je parle. Les épices brutes, 2 ans.
Très bien, il ne faut pas craindre le jet lag dans cette émission, car on file du côté de l'Empire du Milieu avec un mélange emblématique, j'ai nommé le...
Alors, le 5 épices chinoises.
5 épices chinoises.
Voilà, qu'on appelle aussi le 5 parfums chinois. Et là encore, on retrouve la notion de parfum pour les épices. Alors, je vous laisse le sentir.
Intéressant.
Donc là, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans une... En fait, il y a une combinaison de badiane, qu'on appelle aussi anis étoilé, qui est une épice fascinante à 8 branches.
Oui.
Ça ressemble à une petite étoile. Et de la cannelle casse. Et en même temps, d'autres épices qui vont apporter une puissance, comme le clou de girofle,
mais vous êtes
le
en train
Sichuan.
De dire... Oui, mais 5 épices, il n'y en a vraiment que 5 Ou il peut y en avoir d'autres?
Alors, il peut y en avoir d'autres, au final. Hein. Mais en tout cas, celle que mon père a imaginée, là, il l'a imaginée il y a 30 ans, avec un canard, justement. Et
et ben voilà, ça, vous tombez bien, Adrien.
Voilà. Et lui, c'était 5 épices avec du fenouil pour apporter encore une dimension un peu plus anisée. Donc la star dans ce mélange, c'est la badiane. Tout à l'heure, elle ressort vraiment en notes anisées, réglissées. C'est puissant, c'est super puissant le 5 parfums.
Poivre de Sichuan, fenouil, badiane, cannelle, clou de girofle. On est dans un mélange emblématique de Chine qui est utilisé traditionnellement dans de très nombreuses préparations chinoises. Et vous, Adrien Ferrand, quelle stratégie avez-vous adoptée pour dompter en cuisine ce 5 épices chinois?
Bon, on n'est pas allé chercher loin. En effet, le canard, il se marie très bien avec les épices, le canard laqué, le canard apicius et tant d'autres. Et du coup, nous, on a pris des magrets de canard, on les a salés pendant 2 jours.
Oui.
Et ensuite, on les a recouverts de ce mélange 5 épices. Et ensuite, on va le faire sécher au moins 1 mois dans le haut du frigo, dans une cave à vin. Et ça nous fait une charcuterie de magret de canard absolument délicieuse.
Mais on a la note épicée qui est vraiment formidable. Vous disiez qu'il n'y avait pas eu assez de temps de séchage. Moi, je trouve que le fondant du gras... et même de la viande maigre du magret de canard est remarquable.
C'est remarquable. D'ailleurs, on rentre dans le mélange d'épices qui conserve aussi, en plus de parfumer. Il y a vraiment un très bon équilibre entre l'amer, le doux, le salé, l'épicé.
Et justement, ces 5 épices à la chinoise, c'est aussi l'équilibre des 5 goûts. Alors, même si aujourd'hui c'est controversé la notion de 5 goûts, mais on retrouve les 5 goûts avec le salé de la viande de magret, ça fonctionne super bien. Et c'est aussi référence aux 5 éléments terrestres.
Et voilà. Oui, c'est ça qui est intéressant, il y a toute une symbolique.
L'équilibre, une symbolique très importante avec ce chiffre 5.
Et les origines de ce mélange sont lointaines.
Donc lointaines, on ne peut pas vraiment dater avec certitude... ce mélange, cette composition, donc on le retrouve beaucoup en Chine, en Chine du Sud et au Vietnam,
et oui,
énormément.
Également en Asie du Sud-Est, le 5 épices a effectivement beaucoup de succès. On retrouve notamment ce 5 épices dans une préparation que j'aime beaucoup, qui est le chia tsu. Le chia tsu étant cette poitrine de porc qui est laquée comme ça et qui a effectivement ces notes anisées de la badiane, et ça c'est le résultat du 5 épices.
Ça compense le gras, en fait. Ça vient vraiment jouer avec cette notion de gras et l'alléger avec beaucoup de fraîcheur du réglissé.
Avec la badiane et le poivre du Sichuan.
Ouais, très, très intéressant. Et votre mélange est absolument remarquable. Allez, un petit voyage dans le verre avec Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Nous, on part directement dans le Périgord pourpre. On prend le TGV.
On revient de Chine, alors.
On revient de Chine, on fait une petite halte à la gare Montparnasse, on prend un TGV et on va à Bergerac. Et à Bergerac, on prend une voiture et on va à l'ouest de Bergerac. C'est tout près de Bergerac, c'est à Prigonrieux, en plein cœur du Périgord pourpre. Et on va chez Florent Giroux et Tien Huyen Do. Tien Huyen Do, ça va dire quelque chose aux auditeurs de cette auguste radio.
Évidemment, une grande spécialiste de la fermentation. Nous l'avons reçue à ce micro.
Qui était à ce micro il n'y a pas si longtemps que ça. Et alors, le hasard a fait qu'on m'a déposé des vins de chez eux, il n'y a pas très longtemps. Je les ai goûtés, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, je me suis dit que ce serait une occasion de vous en parler. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous parle là d'un blanc... notamment, qui s'appelle Fair-Terre, F-A-I-R-E, plus loin terre pour comme la terre,
oui.
Fair-Terre 2023. J'ai adoré ce vin, c'est un assemblage de Sémillon, de Sauvignon et de Chenin.
Oui.
La particularité est Alessandra, ça va nous rappeler un vin qu'on aime beaucoup tous les deux, qui est un Fiano de Don Quichotte. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce vin, qui est une petite macération. Et bien là, on a 60% de Sémillon, ils sont macérés 8 jours. Les 30% de Sauvignon, ils sont macérés 5 jours. Et il y a 10% de Chenin, c'est autorisé en appellation Bergerac, qui lui n'est pas macéré. Et cette petite macération, cette courte macération, elle apporte une profondeur et une intensité à ce vin. Tout à l'heure, on avait le Ras El Hanout. Je disais que c'était une espèce de paradigme de complexité. Et bien, et il y avait aussi de la profondeur, on sentait la profondeur des arômes, on pouvait aller loin, on cherchait et on trouvait toujours quelque chose. Et là, dans ce vin, cette dimension très légèrement tannique, en fait, cette petite macération, elle va apporter de la profondeur, de saveur au vin. Et elle va lui permettre d'abord de défier un peu le temps, et ensuite d'apporter, de contrebalancer, d'équilibrer un petit peu une maturité poussée des raisins. Je salue d'ailleurs ces raisins qui sont bien mûrs. Enfin, on en a marre des vins maigres. On n'aime pas les vins maigrichons. On aime les vins bien en chair. On aime les vins avec des raisins mûrs. Et là, on a vraiment des raisins mûrs. Et cette petite macération, elle va apporter ce contrepoint d'équilibre. Cette fine amertume, c'est très important l'amertume parce que le sémillon c'est un cépage qui est très peu acide et donc l'amertume elle va venir remplacer l'acidité, elle va venir apporter ce contrepoint d'équilibre. Ça fait un vin qui a des notes exotiques d'un sauvignon bien mûr, le côté fruit blanc, le côté légèrement végétal qui fait le lien avec le plat qu'a fait Adrien tout à l'heure hein, d'ailleurs, hein. Les légumes qui étaient au ras et la noutre, les légumes confits au ras et la noutre et on avait cette communauté de végétal avec le vin. Et voilà, c'est une cuvée que j'ai beaucoup aimée et c'est un domaine qui est très intéressant parce que c'est un domaine qui fait 12 hectares de vignes. Il y a 13 hectares de cultures différentes, des blés anciens, du houblon, des vergers, des friches. Ils ont des animaux. C'est une vraie polyculture comme ils s'en recréent maintenant de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Et en tout cas, merci à Florent Giroux et à Tien Huendo parce que c'est un très très joli vin. Mmh. J'ai mis aussi sur le site internet de l'émission un rouge qui s'appelle Tropisme, qui est un assemblage de Cabernet Franc et de Merlot, uniquement en cuve, qui est un délice de vin rouge avec du fond. C'est pas seulement délicieux. Il y a du fond, il y a de la complexité aromatique.
Quels sont les budgets pour ces cuvées?
On est aux alentours de 11€ pour le blanc, 20€ pour le rouge. Dans les deux cas, ce sont d'excellentes affaires. En particulier, évidemment, pour le blanc, à 11€, vous avez un très très joli vin blanc. Précipitez-vous, allez voir Florent Giroux et Tien Huendo, parce que vraiment, ça vaut la peine.
Domaine de Combriac, ce petit vin blanc vous séduit ou pas, Alessandra?
Et c'est exceptionnel, il y a de la rondeur mais qui est un peu cassée par de la fraîcheur, de la vivacité, ces notes florales et minérales à la fin qui restent en bouche, bien complexes, excellent.
Un dernier mélange à évoquer, alors non pas au pas de course mais il nous reste quelques petites minutes pour évoquer pourtant un grand chapitre des mélanges d'épices, garam masala, curry, quelle est un peu la différence? Tout ce que l'on sait c'est ce qu'on situe du côté de l'Inde, Mathilde Rollinger.
On est en Inde et on est dans les mélanges traditionnels indiens. Garam masala, c'est un mélange du nord de l'Inde.
Oui.
Garam, ça veut dire chaud. Mm-hmm. Et masala, ça veut dire mélange, composition. Donc il y a une note poivrée avec d'autres épices sophistiquées, comme la cardamome, la cannelle. Et en fait... il va avoir un goût, quand on l'a au nez, c'est très, c'est un petit peu l'équivalent du ras el hanout en Inde quelque part.
Oui.
C'est un mélange de fêtes pour aller avec plein de plats. On se fait plaisir avec le garam masala. Aujourd'hui, on le retrouve dans toute l'Inde.
Mm-hmm.
Mais par rapport la différence par rapport au curry, c'est que le curry c'est la vue de l'Inde par les Anglais en
c'est
fait.
C'est ça.
Et un garam masala,
donc on va
c'est une composition du quotidien par les cuisinières indiennes à la maison, c'est quelque chose de la maison, mais avec beaucoup de sophistication, alors que les Anglais, ils mettent le curry dans tous les plats, en fait.
Si je vous suis, le curry est un peu l'interprétation, la réinterprétation occidentale du garam masala. Certains parleraient de réappropriation culturelle. Même si le curry ensuite a fait un retour en Inde, où désormais on dit aussi curry de Bombay, curry de Madras.
Complètement.
Mais tout ça c'est par le prisme, mais par l'intermédiaire des Anglais.
C'est ça, c'est un peu des mélodies en boucle, et après chaque pays, chaque histoire, effectivement, en fait d'autres histoires qui rebondissent parfois comme des ricochets. Donc on est vraiment dans des mélodies réinterprétées. Voilà, mais donc le curry, c'est un côté un peu, effectivement, anglais, réapproprié par l'Inde. Enfin, tout ça est
complexe, mais c'est intéressant. Et le mélange que vous avez choisi, Adrien, c'est le garam masala qui a été créé avec...
Avec Bina.
Bina Paradin, qu'on connaît bien dans cette émission, grande spécialiste de la cuisine indienne, évidemment.
Et ben, il est très bon. Moi, j'ai tout de suite sauté sur la cardamome, que j'aime bien, ce côté mentholé, végétal. Et je me suis dit, on va le faire avec un caramel, pour faire une petite recette sucrée sur cette émission. Et ben, ça marche très bien, caramel légèrement salé, bien beurré. Il vient atténuer justement le côté mentholé du garam masala, et ça marche très bien, dégusté avec... des fruits,
c'est remarquable.
Une crêpe, une gaufre.
Les principales épices du garam masala de Bina?
Poivre, cardamome, cannelle, girofle également.
Et puis bien d'autres épices, mais vous ne révélez pas tous vos secrets, c'est ça, Mathilde?
Il faut en garder un petit peu, effectivement. Et ce qui est génial, c'est de se détourner les mélanges pour pas les mettre uniquement dans des recettes qu'on penserait immédiatement.
On aurait aimé évoquer beaucoup d'autres mélanges d'épices, mais malheureusement, on arrive au terme de cette émission et je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Je voudrais vous annoncer la nouvelle masterclass dont on va déguster, une émission entièrement consacrée à une grande signature de la gastronomie. C'est Hélène Darroze qui sera notre invitée exceptionnelle le jeudi 27 mars à 10h30. Si vous voulez assister à cet enregistrement, vous nous envoyez un mail à onvadéguster@radiofrance.com. On vous répondra. Voilà, à dimanche prochain. Si vous avez encore faim,